Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Marc, chapitre 10. On poursuit donc la série sur les rencontres de Jésus. Et aujourd'hui, Marc, chapitre 10, on regardera des versets 13 à 34. Marc, chapitre 10. Des versets 13 à 34. Et pendant que vous cherchez, on va commencer avec un jeu. Le jeu Tu préfères. Est-ce que tout le monde connaît le jeu Tu préfères? Et donc, Elisa, on va faire ensemble. Donc, je vais poser une question et vous devez réfléchir. Vous devez dire une réponse. OK? Et je vous encourage à jouer le jeu, d'accord? Qui ne connaît pas le jeu Tu préfères? Ah, OK, excellent. Donc, voilà, vous allez voir, c'est un peu surprenant. Et donc, première question. Tu préfères perdre tout ton argent demain matin ou perdre tous tes souvenirs demain matin? Et donc, il faut réfléchir à cela et répondre dans vos cœurs. Deuxième question. Tu préfères que tout le monde sache exactement ce que tu penses des gens ici, ou alors que tout le monde sache exactement ce que tu fais quand tu es seul? Je vois les visages qui commencent à se crisper. Troisième question. Tu préfères apprendre qu'il te reste 6 mois à vivre, ou alors qu'il reste 6 mois à vivre à la personne que tu aimes le plus au monde? Et maintenant, la dernière question. Et ici, il faut vraiment que tout le monde réponde à celle-ci. Tu préfères vivre ta meilleure vie maintenant, avoir tout ce que tu veux, réussir tout ce que tu entreprends, être aimé et admiré de tous et passer l'éternité séparé de Dieu? Ou alors, avoir une vie qui peut avoir des difficultés, renoncer à des choses que tu aimes, passer pour un fou aux yeux de certaines personnes, mais passer l'éternité avec Dieu. Alors, j'ai remarqué que les premières questions faisaient sourire presque tout le monde, mais à la dernière question, j'ai vu que les visages se sont un peu serrés. Pourquoi? Parce que c'est une question de vie. Et même, j'ai envie de dire, non seulement de vie, mais aussi d'éternité. Une deuxième question pour avancer. Savez-vous comment on entre dans le royaume de Dieu? Ou plutôt, si vous arrivez devant le royaume de Dieu, pour quelle raison, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il vous permette d'entrer dans son royaume? Plusieurs réponses sont possibles à ça. Quelqu'un ici pourrait dire, il me laissera entrer parce que je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un de bien. Ou alors, d'autres pourraient dire, et comme une sœur m'a dit il y a quelque temps, je ne pense pas que Dieu pourrait me laisser entrer parce que je n'ai pas trop lu ma Bible ces derniers temps. En réalité, derrière ces deux réponses qui sont en apparence très différentes, il y a la même erreur. Les deux pensent que l'entrée dans le royaume de Dieu dépend de ce qu'on réussit ou de ce qu'on ne réussit pas. Et c'est exactement cette logique que Jésus va dénoncer dans le texte que nous avons ce matin. Je vous invite à lire à partir du verset 13. On lui emmena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accouru et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Verset 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et ils commenceront... Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. C'est la parole de Dieu. Premier point, Jésus accueille ceux que le monde rejette. On a ça dans les versets 13 à 16. Et donc, en fait, le contexte, c'est quoi? Jésus vient juste d'enseigner et il a enseigné une grande foule. Et dans la foule, il y avait des parents qui ont sûrement entendu l'enseignement de Jésus. Et ils font ce que tout parent doit faire. C'est quoi? Ils veulent mettre Jésus en contact avec leurs enfants. Au verset 13, on voit qu'ils souhaitent juste que Jésus touche leurs enfants. Mais au verset 14, on voit que Jésus va s'indigner. Est-ce qu'il s'indigne à cause des enfants? Pas du tout. Il ne s'indigne pas à cause des enfants. Il s'indigne non pas à cause des parents qui ramènent les enfants, mais il s'indigne à cause de l'attitude des disciples. Ce qui indigne Jésus, ce n'est pas juste l'apparence... L'apparent manque de politesse des disciples. En fait, c'est leur mauvaise compréhension de comment on entre dans le royaume de Dieu. C'est ça qui indigne Jésus. En fait, les disciples sous-entendent par leur rejet des enfants. Ils sous-entendent que pour s'approcher de Dieu, il faut un certain statut que les enfants n'ont pas. Il faut un âge que les enfants n'ont pas. Il faut être capable de faire des choses que les enfants ne sont pas encore capables de faire. Jésus est indigné parce que leur attitude est exactement à l'extrême opposé de tout ce que la Bible enseigne au sujet de comment on a la vie éternelle, de comment on entre dans le royaume de Dieu. Alors, Jésus va prendre la parole, verset 14, « Laissez les petits-enfants venir à moi. » Ces enfants que les disciples rejettent, Jésus les voit et les accueille. Et en les accueillant, il est en train de dire à tout le monde, ces enfants qui ont un si jeune âge, ils ont exactement la même valeur à mes yeux que la personne la plus âgée sur la terre. Ils ont ces enfants qui n'ont pas de puissance, sont exactement devant moi, comme l'homme le plus puissant du monde. Jésus est en train de dire que ce n'est pas, il n'y a aucun mérite, ni dans la puissance, ni dans l'âge, pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est au verset 15 que Jésus va poser la clé de tout, de comment on entre dans le royaume de Dieu. Vous avez vu au verset 15, « Quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. » Et donc, comment on entre dans le royaume de Dieu? Comme un enfant. Mais ça signifie quoi? Déjà, c'est l'inverse de tout ce que les disciples sous-entendaient. Ce n'est ni l'âge, ni la réussite, ni les performances qui donnent le passeport pour entrer dans le royaume de Dieu. On entre dans le royaume de Dieu en s'appuyant, non pas sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on a fait, non pas même sur ce qu'on n'a pas réussi à faire, mais sur ce que Jésus est en train d'aller faire à la croix en ce moment-ci. Vous vous souvenez des versets 32-34? Il est en train de partir à Jérusalem et il va mourir. Un mot en particulier dans le verset 15 est précieux, reçoit, un verbe, le verbe recevoir. En fait, on reçoit le royaume de Dieu. En gros, ce n'est pas un effort qu'on fait, ce n'est pas un mérite, mais on le reçoit. L'idée, et on reçoit le royaume comme un enfant, et l'idée n'est pas de dire que les enfants sont purs et innocents. Alors moi j'ai 3 enfants et donc je le vois très clairement que ils ne sont pas du tout purs. Vous les connaissez parfaitement. Donc on peut voir qu'ils ne sont pas purs en toutes choses. Et donc l'idée de recevoir le royaume comme un enfant, ce n'est pas du tout une question de pureté. C'est une question de dépendance. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et donc, il faut juste ouvrir les mains et recevoir le royaume de Dieu. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que Jésus expose ce que le cœur cache. C'est dans les versets 17 à 22. On a dans cette histoire-ci, dans le verset 17 à 22, c'est une histoire qui est très connue d'un homme riche qui vient à Jésus avec une question précise au verset 17. Qu'est-ce qu'il veut? Savoir. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut déjà voir de ce jeune homme, de cet homme. La première chose, au verset 17, c'est qu'il a un vrai intérêt pour son âme. Je veux dire que là où, pour certains, la grande question, c'est qu'est-ce que je vais manger ce midi? Ou encore, où est-ce que je pars en vacances cet été? Pour cet homme-ci, la chose la plus importante, il voit plus loin, il voit long terme. Il se soucie du sort de son âme. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes demandé, que deviendra mon âme? La deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'il a du respect pour Jésus. On le voit toujours au verset 17. On voit qu'il court vers Jésus, il se prosterne devant Jésus et il l'appelle Jésus quoi? Bon maître. Donc il a du respect pour Jésus. Il ne vient pas pour le piéger. Sa question est sincère, honnête. Et troisième chose, dans les versets 19 et 20, il veut savoir quelle performance il doit réussir. Et en réalité, il veut savoir quelle performance de plus il doit réussir pour entrer dans le royaume de Dieu. Et puisqu'il veut faire des choses, Jésus va le renvoyer au système des œuvres. Il va le renvoyer à la loi. Jésus lui dit, tu connais la loi, tu connais les commandements. Pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, pas de mensonge, pas de tort à son prochain. Honore tes parents. Et on sait qu'en réalité, aucun homme ne peut réussir les commandements de Dieu. Et en fait, en essayant, l'idée des commandements et de la loi, c'est qu'en essayant de les faire comme le jeune homme a fait, qu'on se rende compte qu'on est juste incapable d'y arriver et qu'on tombe à genoux et qu'on implore la grâce de Dieu. Qu'on ouvre les mains et qu'on dise, Seigneur, finalement, je voulais mériter des choses, mais je me rends compte que je ne peux pas. Et donc, en renvoyant cet homme à la loi, Jésus lui donne l'occasion de reconnaître que la loi n'a pas pu le sauver, mais que la loi n'a amené dans sa vie que culpabilité et peur. mais il est fier et il dit qu'il a observé les commandements. Ensuite encore, ce qu'on peut voir, c'est que au verset 21, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a presque tout bien fait. Il a presque tout bien réussi. Verset 21, il n'est pas, on voit qu'il n'est pas si loin de la vie éternelle. Jésus va lui dire quoi? Il lui manque une seule chose. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Et la réaction est stupéfiante. Quand il entendit cela, verset 22, il prit un air sombre et s'en alla, tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Maintenant, faisons un pas en arrière et essayons de comprendre ce qui se passe ici. Remarquez déjà que c'est la première fois que quelqu'un rencontre Jésus et repart triste. On a commencé à voir les rencontres de Jésus. On a parlé de Nicodème qui est parti et on voit dans la suite des évangiles que Nicodème a trouvé sa joie en Jésus. Il est venu inquiet et en Jésus, il a trouvé sa joie. On a vu la femme samaritaine qui est venue, qui était disqualifiée d'un point de vue moral, d'un point de vue spirituel. Mais quand elle rencontre Jésus, elle trouve en lui une joie qui fait exploser son cœur. Désormais, elle ne veut plus son bonheur dans les bras d'un homme. Désormais, elle a trouvé son bonheur le plus total en Jésus. Elle rentre dans le village et sa joie va déborder jusque sur tous les villageois. En fait, toutes les personnes qui rencontrent Jésus repartent toujours dans une plénitude totale. Chacun repart avec plus que ce qu'il n'avait au départ. Et pensez même à ces jeunes enfants qu'on a amenés devant Jésus. Qu'est-ce qu'ils voulaient au départ? Juste être touchés par Jésus. Et qu'est-ce qu'ils auront? Jésus les prend dans ses bras. Et il les bénit, il leur impose les mains. Vous voyez, à chaque fois, c'est ça. C'est toujours dans l'abondance. Et pourtant, ce jeune homme va repartir triste, avec un air sombre. Est-ce que Jésus l'a ignoré? Pas du tout. Au verset 17, on voit que Jésus s'arrête pour lui parler. Est-ce que Jésus lui a parlé méchamment? Absolument pas. Au verset 21, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus le regarde avec amour. Qu'est-ce qui a donc pu causer cette tristesse? Sûrement ce que Jésus a exposé de son cœur. Vous avez remarqué que quand Jésus lui parle des commandements, il cite la partie des commandements qui concerne les relations entre les hommes entre eux. Et le jeune homme dit avoir tout respecté. Mais quand Jésus lui dit, va, vends, donne, suis-moi. Il est en train de mettre la lumière sur le premier commandement. Vous connaissez le premier commandement? C'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et c'est à ce moment que la tristesse envahit le visage de ce jeune homme. Il vient d'être démasqué. Son cœur servait un autre Dieu. Sa morale était bonne, mais son cœur servait un autre Dieu. Sa religion était bonne, mais son cœur servait un autre Dieu. Et quel Dieu? L'argent, les richesses. Pour cet homme, c'est l'argent, et pour d'autres personnes ici, ça peut être autre chose. Tu peux être ici tous les dimanches, chanter, 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 et adorer autre chose que Dieu dans ton cœur. Pour certains, c'est le regard, l'image, la réputation, ce besoin viscéral d'être aimé, respecté, considéré. Et pour cela, suivre Jésus, c'est accepter de passer pour un fou aux yeux du monde. C'est renoncer à être quelqu'un aux yeux du monde, aux yeux des hommes, pour être quelqu'un aux yeux de Dieu. Pour d'autres encore, c'est la famille. Vous savez, l'approbation de la famille, l'approbation des parents. On vit parce qu'on veut. Tout ce qui importe pour nous, c'est que les parents disent, ah, c'est super, tu es un super enfant. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si cela devient l'absolu de notre vie, alors on est en train d'adorer autre chose que Dieu. Et pour d'autres encore, c'est l'orgueil religieux, la fierté de bien faire, de bien connaître sa Bible, d'être irréprochable aux yeux de l'Église. Et dans ces cas-là, suivre Dieu, le renoncement auquel on serait appelé ici, c'est un renoncement qui est beaucoup plus difficile encore. C'est celui de renoncer à sa propre justice. Exactement comme ce jeune homme, comme cet homme riche. Reconnaître que ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est sauvé. Vous vous souvenez? On doit venir comme un enfant. On ne peut pas venir devant Dieu avec nos prières et dire, Seigneur, tu vois, je prie beaucoup, donc tu dois me sauver. Je dois entrer dans ton royaume parce que je prie beaucoup. Je dois entrer dans ton royaume parce que je lis et je connais beaucoup la Bible. C'est de bonnes choses. Mais ce n'est pas des choses qui peuvent nous donner une prétention devant Dieu. Le renoncement change de visage selon les personnes, mais le principe est toujours le même. L'entrée dans le royaume de Dieu nécessite un renoncement clair, un renoncement à ce monde et aux promesses de ce monde. Merci à Arnaud pour les chants. Je pense que tu avais sûrement lu le texte pour choisir ces chants-là, qui parlent de renoncement clair aux choses de ce monde pour s'attacher à Jésus. Alors, laissez-moi vous poser une question directe ce matin. Si Jésus vous regardait avec amour, comme au verset 21, quelle chose pourrait-il pointer dans votre vie? À ce jeune homme, il a dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel et viens, suis-moi. » Et à toi alors, qu'est-ce que Jésus dirait de lâcher? Quel est le renoncement auquel il pourrait t'appeler? Cet homme était tellement attaché à ses richesses qu'il n'a même pas compris ce que Jésus lui proposait. Il n'a pas compris le deal. Regardez de nouveau. Jésus n'a pas demandé de sacrifier ses richesses pour rien. Il a invité à faire quoi? Un échange. Vous avez vu? Regardez le verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » C'est un échange qui est proposé ici. Tes richesses ici-bas contre un trésor dans le ciel. Et quel est le trésor promis dans le ciel? C'est ce que Saint Augustin a écrit. Il dit que le trésor qui est promis dans le ciel, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. Il dit, la récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez quelque chose de mieux. Parce que Jésus est le plus grand trésor qu'on puisse imaginer. Là où l'argent déçoit, Jésus est fidèle. Là où la popularité déçoit, Jésus est fidèle et il est encore là. Paul écrit aux Colossiens en parlant de Jésus, il dit, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors, pas quelques trésors. En Jésus, il y a tous les trésors. Et donc Jésus lui dit, mais lâche ces trésors terrestres et prends-moi qui suis le global, celui qui englobe tous les trésors imaginables. Paul aussi, qui avait des belles richesses, va dire en Philippiens 3, il dit, toutes ces choses que je considérais comme un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et même Jésus lui-même dans la parabole va dire, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé dans sa joie va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Frères et sœurs, imaginez qu'on trouve une mine d'or sous cette maison-ci et qu'on dise que cette maison est à vendre et que vous avez votre maison aussi quelque part. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre sa maison et acheter celle-ci. Parce qu'il y a plus de trésors ici. Et c'est exactement ce que Jésus proposait à ce gars. Lâche ces biens terrestres et prends-moi qui suis le plus grand des trésors. Le problème de cet homme riche, c'est déjà sûrement qu'il aimait trop ses propres richesses. Mais c'est aussi qu'il n'avait pas réalisé que Jésus, le Fils de Dieu, était un bien plus grand trésor. Asaph, qui est le psalmiste dans le psaume 73, dans les versets 25 à 26, va écrire ceci. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Voilà ce moment où ce jeune homme part triste. C'est le moment le plus tragique jusqu'ici de l'évangile de Marc. Pour la première fois, quelqu'un repart d'une rencontre avec Jésus sans avoir été comblé. Cet homme est arrivé à la porte du royaume. On a ouvert la porte. On lui a dit « Entre !» Mais il s'est retourné et il est parti triste avec ses richesses, abandonnant le plus grand trésor derrière lui. Le troisième point, c'est que Jésus accomplit ce que l'homme ne peut accomplir. Est-ce que vous avez vu l'image que Jésus prend dans les versets 23 à 27? Il parle d'une aiguille à coudre et d'un chameau. Le chameau, c'était l'animal le plus grand que ses auditeurs connaissaient. L'absurdité est volontaire, c'est-à-dire faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. C'est volontaire. Jésus veut montrer l'impossibilité de la question. Un riche, quelqu'un qui a des richesses, quelqu'un qui s'attache, et vous avez vu, on a compris que ce n'était pas uniquement une question d'argent, c'est tout ce qu'on aime plus que Dieu rendra notre entrée dans le royaume de Dieu impossible. Dans cette section, on voit que les disciples sont inquiets, à la fois à cause du jeune homme qu'ils voient partir, un jeune homme qui moralement était correct, et eux, les disciples, ne sont pas corrects moralement, mais en même temps, ils sont inquiets à cause de ce qu'ils entendent de Jésus dire. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 25, il dit encore, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » En fait, ils ont raison d'être inquiets. Vous savez pourquoi? Dans la société de l'époque, la richesse matérielle était considérée comme étant un signe de la bénédiction de Dieu. Et donc là, en gros, ce qu'ils sont en train de se dire, ils se disent, mais si quelqu'un arrive, si cet homme-là vient, il est moral. Et en plus de ça, il a tous les signes extérieurs de la bénédiction de Dieu, mais que jusque-là, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qui peut être sauvé? C'est la question du verset 26. Qui peut être sauvé? Il n'y a pas d'espoir. Qui peut être sauvé? Excellente question. Jésus est en train de... Et Jésus va dire, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Et Jésus est en train de dire que le salut est en dehors de la portée de tout homme. Personne n'entre dans le royaume de Dieu par ses propres forces. La richesse n'aide pas à entrer dans le royaume de Dieu. La religion n'aide pas à entrer dans le royaume de Dieu. C'est les mains vides. C'est dans la dépendance. C'est en reconnaissant que nous sommes incapables qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. Quatrième point. Jésus suffit là où tout manque. On voit ça dans les versets 28 à 31. Pierre, l'inquiétude monte de plus en plus dans le cœur de Pierre. Et là, il va poser la question que tout le monde avait en tête. Sûrement les autres disciples étaient aussi inquiets. Pierre va dire, mais en fait, tu dis qu'il faut abandonner, il faut renoncer aux choses, à ce monde-ci pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais regarde, nous avons tout quitté pour te suivre. C'est au verset 28. Vous voyez, le sous-entendu, c'est quoi? C'est, est-ce qu'on a bien fait de quitter? Parce que là, on est un peu inquiet. Et Jésus va répondre avec cette promesse extraordinaire que je voudrais vraiment comprendre un moment pour comprendre parfaitement ce que Jésus dit. Une belle promesse. En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'évangile, qui ne reçoive au centuple maintenant dans ce temps-ci avec les persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Ce que Jésus dit, c'est que le suivre va toujours impliquer un coût. Il y a toujours un renoncement personnel. Et ce qu'il dit aussi, c'est que ça vaut toujours la peine de renoncer à ce qu'il faut renoncer pour le suivre. Et pendant que je parle de renoncement pour suivre Jésus, je pense à un cousin qui s'est converti alors qu'il était étudiant. Et toute la famille a mis une pression énorme sur lui pour qu'il renonce à la foi. Et parce qu'il a dit qu'il avait trouvé en Jésus quelque chose de vraiment trop précieux pour y renoncer. Et la famille lui a dit, tu préfères. La famille lui a fait jouer à tu préfères. Tu préfères le royaume de Dieu que tu choisis, duquel tu parles là. Ou alors nous, ta famille, il a supplié, mais la famille a choisi pour lui et la famille l'a rejeté et l'a renié. Je pense à cet homme dont j'ai entendu parler, qui à cause de son penchant pour les personnes du même sexe, a décidé de ne pas se marier et de rester chaste parce qu'il préfère le royaume de Dieu. Il renonce à des actes abominables pour le royaume de Dieu. Je pense à la fille d'un ami qui a été divorcée par son mari parce qu'elle a refusé de renoncer à sa foi. Elle a perdu son mariage et sa vie de famille à cause du royaume de Dieu qu'elle avait trouvé plus précieux que tout. Je pense à ces personnes parmi nous ici qui chaque mois choisissent librement, joyeusement et généreusement de donner une partie de l'argent qu'ils gagnent difficilement, de donner ça à l'Église pour que le royaume de Dieu avance et soit de plus en plus visible ici à Chelles. Si vous interrogez chacune des personnes que je viens de mentionner, aucune de ces personnes ne regrette ses choix. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en Jésus, on a trouvé quelque chose d'infiniment plus grand. Je ne sais pas si vous connaissez Jim Elliot. C'est un missionnaire qui est allé pour annoncer le royaume de Dieu en Équateur. Et le jour même de son arrivée, ils étaient 5 missionnaires, ils ont été tués à la plage. Plus tard, on a retrouvé dans son journal une phrase qu'il avait écrite des années avant et il disait ceci. « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. » Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. C'est une parole remplie de sagesse. Personne ne peut garantir et garder sa carrière, garder sa sécurité, garder sa vie. Or, ce que Jésus offre, personne ne peut nous l'enlever. En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant, au champ à cause de moi et à cause de l'évangile, qui ne reçoivent au centuple, maintenant dans ce temps-ci, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais alors, soyons un peu plus pratiques. Comment est-ce que cette promesse de Jésus s'accomplit concrètement aujourd'hui? Je veux dire, comment est-ce que Jésus donne des frères et des sœurs et des maisons et des familles à ceux qui ont tout quitté pour lui? La réponse, c'est que Jésus donne ça par le moyen de l'Église. C'est par l'Église que nous sommes que Jésus tient cette promesse-ci. C'est dans la famille en Christ que cette promesse de Jésus prend chair. De sorte que quand mon cousin qui a perdu sa famille arrive dans une ville ou un pays différent du sien, il me dit qu'il a toujours été accueilli comme un fils et aimé comme un frère. C'est ça l'Église, et c'est aussi comme cela que le royaume de Dieu est visible dans le monde. Et concrètement, pour nous, À quoi ça peut ressembler encore? Je veux dire, comment est-ce que nous, ici, nous pouvons incarner ce dont Jésus parle ici? L'idée de cette famille solide dont Jésus parle ici. Si, voici un exemple. Si vous êtes une famille et que vous accueillez régulièrement une personne célibataire dans votre maison, qu'elle peut jouer avec vos enfants, manger à table avec vous, alors vous êtes exactement en train d'accomplir pour cette personne-là ce que Jésus promet dans cette parole. Vous êtes en train de lui montrer qu'il appartient ou qu'elle appartient à une famille céleste. Vous êtes son frère, vous êtes sa sœur. Vous voyez? Et à titre personnel, j'ai envie de vous dire ma reconnaissance parce que je vois l'attention que vous accordez régulièrement à nos enfants. Vous leur montrez, et en faisant cela, vous leur montrez à quoi ressemble le royaume de Dieu, cette famille qui est belle et rayonnante. Comment est-ce qu'on peut continuer d'incarner cela? C'est être là les uns pour les autres. Vous avez un déménagement à faire? Contactez un frère ou une sœur de l'église. Un besoin, peu importe, contactez l'église d'abord. Si vous avez du mal, frères et sœurs, à comprendre la profondeur de ce que Jésus est en train de dire ici, c'est sûrement parce que vous n'avez pas encore quitté, vous n'avez pas encore renoncé grand-chose pour suivre Jésus. Mais les personnes qui ont tout perdu, qui ont tout quitté, qui ont fait de vrais renoncements et qui continuent de renoncer tous les jours pour saisir le royaume de Dieu, eux, ils savent combien la famille en Christ est précieuse. Ils espèrent tout de l'Église parce que l'Église est devenue leur famille. Jésus suffit. Il est suffisant pour ceux qui ont tout quitté. Il suffit à travers ce qu'il construit, l'Église, la famille la plus solide qui soit. Et maintenant, pour terminer, Jésus meurt pour ceux qui ne méritent rien. C'est ce qu'on voit dans les versets 32 et 34. La fin de notre texte, je pense que Marc ne met pas cette partie-ci pour rien. Il en parle, il met ceci ici. Parce que vous vous souvenez de la question des disciples? Qui donc peut être sauvé? Et la réponse, la vraie réponse, c'est personne. Personne ne peut être sauvé. Cela, et Jésus a répondu, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu cela est possible. Personne n'a eu besoin de demander à Jésus, mais alors, comment est-ce que Dieu rend cela possible? Jésus est là, on voit dans ces versets-ci, il est là et il est devant, tout devant. Et il va où? À Jérusalem. Il va donner sa propre vie. Il va perdre tout ce qu'il avait. Jusqu'à sa propre vie, il va perdre son honneur, il va perdre sa dignité, il va perdre sa liberté, il va perdre sa vie. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit que le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils vont le condamner à mort, ils vont le livrer aux païens. Mais le troisième jour, il va ressusciter des morts. C'est Jésus qui va traverser. Le jeune homme riche n'a pas pu se dépouiller, mais Jésus va se dépouiller de tout. Il va traverser la mort et il va ouvrir la porte du royaume de Dieu pour ceux qui veulent venir sans prétention. En disant, Jésus, la seule chose avec laquelle je veux venir, le seul mérite que je veux avoir, c'est ce que tu as fait à la croix. On a commencé avec un jeu, le tu préfères. Et la dernière question, la vraie question était celle-ci. Tu préfères vivre ta meilleure vie maintenant, avoir tout ce que tu veux, réussir tout ce que tu entreprends, être aimé, admiré de tous et passer l'éternité séparé de Dieu, a priori comme cet homme riche, ou alors traverser une vie qui peut être difficile. Renoncer à des choses, renoncer à ce monde et à ses prétentions et à ses promesses, mais avoir la certitude de passer l'éternité avec Dieu. Notre texte propose un chemin de réponse. L'homme riche a fait son choix, il a préféré garder ses richesses et partir. Il avait la moralité, la sincérité, le respect. Mais quand Jésus a mis le doigt sur son idole, il n'a pas pu renoncer. Il est parti. Elizabeth Elliot, c'est la femme de Jim Elliot dont j'ai parlé tout à l'heure. 2 ans après que son mari ait été tué en Équateur, elle va retourner dans cette même ville, dans ce même village, avec sa fille de 2 ans. Pour la même chose, parler du royaume de Dieu à ces mêmes personnes qui avaient tué son mari. Minkai, c'est le nom du guerrier qui a lui-même de ses propres mains tué Jim Elliot, va devenir chrétien. Et en devenant chrétien, il devient quoi? Il devient le frère d'Elizabeth Elliot. Et il devient non seulement le frère d'Elizabeth Elliot, il devient le frère de l'enfant d'Elizabeth Elliot. Et il devient aussi, pour l'éternité, le frère de Jim Elliot. Lequel choisissez-vous? Avant de partir, petite question. Si Jésus pointait comme ça, en vous regardant et en vous aimant, verset 21, il te manque une chose. Qu'est-ce qui vous retient de suivre Jésus avec un cœur sincère, honnête, de tout abandonner pour le suivre? La question est posée. Mais en tout cas, Jésus est là, le trésor est là. Et il propose toujours de venir, les mains ouvertes, vides. Je vais prier.